Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Mon collègue et ami Joseph Facal, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, a écrit une chronique absolument hallucinante ce matin dans le journal que vous devez absolument lire, parce qu'il place le gouvernement Legault et François Legault lui-même face à ce qui pourrait être un point tournant dans l'histoire du Québec, c'est que la situation du français est telle qu'à un moment donné, le gouvernement Legault doit prendre une décision et se positionner vraiment de façon très ferme. En tout cas, c'est le propos de Joseph dans le journal de ce matin. On lui parle tout de suite. Bonjour, Joseph.
Bonjour, Sophie.
Écoute, je te l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je te le dis, t'as vraiment le feu au derrière. Je sais pas ce que tu manges en ce moment, mais ta chronique de ce matin, tu lances un défi en fait à François Legault en lui disant, ben écoutez, la question de la langue est tellement importante, qu'est-ce que vous allez faire? Ça pourrait être vraiment un moment tournant dans l'histoire du Québec, ce qui se passe en ce moment.
Écoute, en 2018, excédé par cette espèce de polarisation presque séculaire entre un parti libéral totalement inféodé à Ottawa et un parti québécois qui n'avait pas les moyens de ses ambitions et qui s'est fait dire deux fois non à son projet, les Québécois se sont dit « bon, d'accord, il y a peut-être une troisième voie. On va voter pour un parti qui ne veut pas sortir du Canada, mais qui est quand même nationaliste ». Et être nationaliste, c'est défendre le fait français. Eh bien, pour le moment, ce nationalisme nous a valu une loi sur la laïcité minimaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm-hmm. Et pour le reste, ben, écoute Sophie, la distinction, la différence québécoise en Amérique du Nord, elle s'exprime d'abord et avant tout par le français. Bien sûr. Aujourd'hui, quand c'est rendu que même le gouvernement Trudeau, même le gouvernement Trudeau admet le recul du français au Québec, ben, ça place évidemment M. Legault devant ses responsabilités. Ça fait des mois qu'on nous promet une politique, très bien, je comprends que le sujet est complexe et que ça prend du temps, mais quand le bébé arrivera, on espère que ce sera autre chose que des mesures incitatives et des amendes risibles. Ouais. Là où, Sophie, évidemment, on peut se poser de sérieuses questions, c'est que M. Legault voulait construire une coalition. Il a sa coalition. Mmh. Son parti est un mélange de souverainistes
et c'est un arc-en-ciel, là.
Et là, évidemment, quand une jambe veut aller dans une direction et que l'autre jambe veut aller dans l'autre, tu risques de n'aller nulle part.
Donc, oui, c'est l'immobilisme. Oui, c'est l'immobilisme. Mais tu fais référence, en fait, à ce projet de loi sur lequel ces mesures sur lesquelles planche Simon Jolin Barrette. On a envie de lui dire « accouche qu'on baptise » parce que t'as tout à fait raison dans ta chronique de le souligner. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec, depuis quelques jours, sort... En fait, jour après jour, des informations, que ce soit le reportage sur la langue parlée dans les commerces au centre-ville de Montréal, que ce soit les sondages sur qui nous montrent que les jeunes s'en fichent complètement. Il y a un momentum là. Il faut que le gouvernement profite de ce momentum là pour agir. Mais ce que j'aime de ta chronique, Joseph, c'est que tu vas plus loin. C'est que t'es en train de nous dire que toutes tous les voyants sont à vert. Tous les feux sont au vert. Donc, si François Legault ne prend pas sa petite voiture et ne passe pas go pour réclamer 200, ben, la fenêtre d'opportunité va se refermer et Dieu sait dans combien de temps elle va se réouvrir.
Tu as tout à fait raison. La fenêtre d'opportunité, c'est maintenant. Et c'est justement pour cela que, en fait... Le gouvernement, il a une sorte de dilemme. C'est-à-dire que s'il y allait avec des petites mesurettes incitatives, des belles petites campagnes de pub bien léchées pour dire « Ah, oh, comme c'est beau le français », ben il va, d'un côté, même ça, va agacer certaines personnes, et d'un autre côté, les personnes qui, de bonne foi, ont cru à son nationalisme, elles aussi seront déçues. Donc, d'une certaine façon, à mon avis, le gouvernement doit prendre le taureau par les cornes. Cela dit, évidemment, ça voudra dire une loi qui déplaira forcément à beaucoup de gens. Ça voudra dire forcément, inévitablement, revoir toute la politique d'intégration des immigrants. Et à un moment donné, Sophie, à un moment donné, et on y est presque, François Legault va être rattrapé par la question qu'il a toujours voulu éviter, qui est celle du statut provincial du Québec. Tu sais, nous sommes dans un Canada dont la loi sur les langues officielles pose une équivalence en droit entre les Anglo-Québécois et les Franco-Albertains.
Ben non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je tiens à ce sujet-là à rappeler que justement, une des raisons pour laquelle on parle autant de la langue en ce moment, c'est à cause de la bourde de Emmanuela Lambropoulos, de députée libérale de Saint-Laurent, qui est allée dire en pleine commission sur les langues officielles que elle remettait en doute en fait le déclin du français au Québec en disant ben faut que je le voie pour le croire. Et écoute, moi je suis tombée sur un extrait d'une entrevue qu'elle a donnée il y a 2 ans à un média anglophone où elle dit spécifiquement que la raison pour laquelle elle siège sur ce comité-là, c'est à la demande expresse de Justin Trudeau pour que la voix de la minorité anglophone au Québec soit représentée. Donc, aux yeux du gouvernement Trudeau, le statut minoritaire des anglophones au Québec est aussi grave que le statut d'un francophone au Manitoba. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison possible, aucune.
Bien sûr. Mais tu sais, aussi, au-delà du cas, au-delà de la bourde de Mme Lambropoulos, il y a aussi un examen de conscience que nous devons faire nous-mêmes, les francophones. C'est-à-dire que la question de la langue, elle est évidemment à la fois collective, donc politique, mais elle interpelle aussi chacun d'entre nous. Et ben quand on regarde le comportement individuel des Québécois, tu as le résigné, tu as celui qui se bat tout seul, par exemple, comme toi et moi qui exigeons d'être servis en français pendant que nos enfants à côté de nous sont gênés et disent « non, non, papa, non, non, maman ». Tu as aussi celui qui est totalement inconscient et tu as l'espèce de
Olivier Primo
épais et fier de lui, comme ton Olivier Pizza Slice Primo. Donc, il y a aussi tout un examen de conscience à faire de chacun d'entre nous. Tu sais, Sophie, j'ai l'impression que nous vivons un peu la Elvis gratonisation des esprits. C'est-à-dire que l'anglais...
L'anglais, je vais te citer là-dessus, là.
Non, mais l'anglais est vu comme la langue des winners, la langue des gagnants. Et beaucoup, beaucoup de francophones se voient à travers les yeux de l'autre. Inconsciemment, ou parfois même consciemment, ils cherchent l'approbation de l'anglophone. Et tout cela cache, mal, dissimule, une haine de soi, un mépris de soi, qui est en fait un relent de colonialisme. Faut dire les choses comme elles sont.
Oui, alors c'est très intéressant que tu parles de ce mot-là, colonialisme, parce que, bon, ben depuis que j'ai écrit ma petite chronique sympathique sur Olivier Primo, évidemment, je porte une attention à tout ce qu'il écrit sur Twitter, et donc, quand il avait annoncé que sa prochaine entreprise, ce serait Slice Gang Pizza, il y a quelqu'un qui lui a écrit en disant « t'es rien qu'un colonisé », et Olivier Primo a répondu « franchement ». Parler de coloniser en 2020 comme si c'était un vocabulaire qui appartenait aux années 70 ou aux années 60. Mais je m'excuse, c'est un comportement de coloniser en 1960. C'est exactement la même chose que si tu as ce comportement-là en 2020. Mais pour lui, c'était comme un vocabulaire ringard, dépassé d'un autre temps, ou pour utiliser une expression que comprendrait bien Olivier Primo, has-been.
Ah, mais ça... Sophie, on est en plein dans Denis Arcand, on est en plein dans le confort, l'indifférence, l'âge des ténèbres. C'est-à-dire que la grande illusion du Québec moderne est de croire que notre confort matériel, nos gadgets, nos bungalows et nos piscines creusées signifient qu'en fait, on est totalement décolonisé. Non, pas du tout. Entre les deux oreilles, c'est là que ça se passe. Il y a encore des réflexes de petit peuple qui pensent évidemment que c'est s'élever que s'angliciser. Tu sais, Sophie, moi, là, je te cache pas, parfois, mes moments de découragement. On débat de la langue au Québec depuis je ne sais combien de décennies, et on est encore en train d'expliquer à des gens que la question n'est pas de savoir s'il faut parler anglais ou pas. Bien entendu, toi-même, étudiant à Columbia, la question, c'est pas « faut-il savoir l'anglais ?» Bien sûr que oui. La question, c'est « est-ce qu'on veut, du bilinguisme institutionnel qui, évidemment, conduit à l'anglicisation des institutions ?» Et deux, quelle est la langue que l'on veut comme langue prédominante de la vie publique au Québec? C'est tout. Pour le reste, au plan individuel, c'est normal et c'est souhaitable que chaque Québécois parle le plus de langues possible. Mais on peut-tu être servi, on peut-tu être soigné dans un hôpital dans notre propre langue au Québec?
Ben oui.
Il semblerait que c'est rendu ben trop de demander ça.
Hey. Ouais, écoute, quand tu dis que ça fait des années et des années et des années, je me suis amusée sur ma page Facebook à rappeler une chronique que j'ai écrite il y a 8 ans. Il y a 8 ans, en 2012, et le titre de ma chronique, bon, c'était un petit peu baveux, ça s'appelait « We don't give a fuck ». Et pourquoi je disais ça? C'est qu'il y avait eu un sondage de l'actualité sur l'attitude des jeunes par rapport aux Français. Et écoute, Ce que nous démontrait le sondage en 2012, il y a 8 ans de ça, la majorité des personnes interrogées pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que toute l'activité économique de Montréal se fasse en anglais.
Oui, effectivement, et ça, c'était en 2012. Alors, tu vois, d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça parce que ça m'amène sur un autre terrain.
Vas-y.
Nous sommes, Sophie, à une époque qui glorifie la jeunesse. Je ne sais pas si c'est parce qu'une société vieillissante a peur de mourir, mais à chaque fois que les jeunes disent quelque chose, on se prosterne devant eux. Mais je m'excuse, Sophie. Être jeune, c'est pas une qualité. Être jeune, c'est une statistique. C'est un temps, c'est un passage. Le temps va se charger de ça. C'est pas parce que les jeunes s'en foutent que ça leur donne forcément raison. Ben non, tout simplement, ils ont tort. Ils ont tort comme on a souvent tort quand on est jeune dans la vie et qu'on manque de recul pour apprécier certaines affaires. Alors, je m'excuse. Quand les jeunes me disent qu'ils s'en foutent, je leur réponds « Ouais, puis vous avez tort, tout simplement ».
Oui, tout à fait. Et puis, écoute, c'est comme si on faisait, mettons, un sondage auprès des jeunes et que on découvrait que les 18-34 ans, par exemple, disent « Moi, je m'en fous du féminisme, c'est pas important l'égalité homme-femme ». Ben, tous les gens qui sont tous les bien-pensants qui sont en train de s'extasier sur les jeunes puis de les trouver formidables, ben, ils diraient pas « Oh, ben, ils ont le droit de penser ça, puis c'est correct, puis c'est comme ça que va la vie ». Ben non. Ils seraient complètement outrés, puis diraient, ben voyons donc, ces jeunes-là n'ont pas compris, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris quelque part. Ou si on faisait un sondage pour les 18-34 ans qui niait, mettons, le racisme systémique, ben les mêmes bien-pensants diraient, ben voyons donc, faut les éduquer, faut leur donner une perspective historique. Mais non, quand c'est les jeunes qui disent, ben l'anglais, c'est pas grave, là, tout d'un coup, les bien-pensants, on les entend plus, ils trouvent que, ben oui, ben c'est correct, ils ont le droit de penser ça, les jeunes. C'est quand même assez particulier, là.
Non, non, tout à fait. Je te le dis, Sophie, on arrive vraiment à un moment de vérité. Je voudrais pas être excessivement dramatique, mais tu avais raison, il y a un instant, de dire que pour le gouvernement Legault, il y a un moment de vérité. Et je te dirais que, finalement, plus largement, si on prend un peu de hauteur, dans un contexte où, évidemment, le Parti québécois a subi la dégelée que l'on connaît, quand on regarde l'évolution démographique du Québec, après 2 référendums perdus par les souverainistes, tu sais, l'histoire, là, elle ne repasse pas les plats un nombre indéfini de fois. Là. À un moment donné, les fenêtres, elles se referment. Et la démographie, pour un peuple, c'est la tendance lourde, la plus difficile à renverser de toutes. Tout ce qui est mode, humeur, élection, tout cela peut être renversé. Mais la démographie, c'est comme le courant d'une rivière. Quand il est trop fort, aller contre le courant, ça devient impossible. Et donc, je pense que notre sort, il se joue maintenant. Oh, bien entendu, si la fenêtre se referme, le déclin sera lent, il sera relativement confortable, ça prendra quelques décennies avant d'être complètement acadianisé, mais c'est ça le sort qui attend le Québec français s'il ne réagit pas.
Oui, et je ne sais pas si tu as lu la chronique de Mario Dumont ce matin où il imagine quelqu'un qui est au Québec depuis 2 ou 3 ans qui parle déjà sa langue maternelle et l'anglais, qui arrive ici au Québec et qui... il y a que des lumières vertes pour lui pour l'anglais. Je veux dire, quand il s'adresse au gouvernement, on lui dit vous pouvez remplir vos formulaires en français ou en anglais. Quand il se cherche un travail, il y a aucun problème du fait qu'il ne parle pas français. Il va se trouver un boulot en parlant seulement anglais. Et donc ce que démontre Mario Dumont dans sa chronique ce matin, c'est que c'est tout à fait envisageable et tout à fait facile pour quelqu'un qui immigre ici de faire sa vie en anglais complètement, parce que justement on n'a pas de mesures coercitives ou on n'a pas de mesures incitatives pour dire aux gens, vous venez vivre ici, ben ça va se passer en français. Non, on leur donne toutes les possibilités de faire leur vie en anglais seulement, et après on se retrouve avec les résultats qu'on a là. Donc il y a aussi une responsabilité gouvernementale à tous les niveaux. C'est vraiment une démonstration très très efficace dans sa chronique de ce matin.
Mais bien sûr, Sophie, l'immigrant arrive ici et voit quoi? Il voit un rapport de force. Forcément, comme il veut refaire sa vie, comme il a souvent quitté des contrées troubles et qu'il veut simplement avoir la paix ici et réussir économiquement, eh bien, sa lecture du rapport de force va le conduire à choisir le camp du plus fort. C'est tout à fait normal. Par ailleurs, cet immigrant un peu confus qui cherche des points de repère, qu'est-ce qu'il reçoit comme message? Le gouvernement du Québec lui dit, ici, il y a une langue officielle, le français, par ailleurs bafouée au quotidien. Et le gouvernement fédéral lui dit, ici, il y a 2 langues officielles, choisis celle que tu veux. Et c'est le gouvernement fédéral qui lui fait prêter serment et qui lui donne son beau passeport. Devine ce que va faire l'immigrant. C'est parfaitement raisonnable. Si toi et moi émigrions en Espagne, est-ce qu'on commencerait par apprendre l'espagnol ou le catalan? Je vais y répondre.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on apprendrait l'espagnol ou le catalan? Parce qu'on t'a perdu un petit peu là. Et si, claro, vamos a hablar español juntos. Es muy claro. Pues muchísimas gracias, Joseph Facal. Ça a été drôlement intéressant, comme toujours. Puis on se retrouve jeudi prochain. Merci, Joseph.
A vous también. Ciao.
Oui, c'est ça. Espagnol, italien, oui donc. Sayonara, tiens, tant qu'à y être. On se retrouve la semaine prochaine.